Père des aventures artistiques, la Red Team, c'est la règle de trois de François Skuyten. Son père, Robert Skuyten, est architecte et peintre. Il a écrit plusieurs livres, dont Concevoir sa maison, publié dans les années 40. François, né en 1956 à Bruxelles, il est le septième d'une famille de 8 enfants. Dans la maison familiale du quartier de Stockel, les discussions tournent autour de l'architecture. Mais le père tient aussi à transmettre sa culture artistique. Il emmène les enfants visiter les musées, les châteaux et leur donne des cours de dessin. Il considérait l'école comme un appoint, estimant qu'il fallait surtout apprendre à regarder, à dessiner et à peindre. François Skuyten se passionne très vite pour la BD, il s'y exerce dès l'âge de 12 ans. 4 ans plus tard, sa première histoire intitulée Mutation est publiée dans le Pilote belge. Depuis, il mène ce qu'il appelle des aventures artistiques. Grand dessinateur de BD, il marque la discipline de son empreinte, notamment grâce aux Cités Obscures, une série coécrite avec Benoît Peters dont le premier numéro sort en 1983.
Ici, dans cette série, l'architecture a un rôle privilégié. C'est vraiment un peu le thème chaque fois des récits. C'est une partie inhérente à l'histoire.
François Skuyten travaille sur de nombreuses autres créations. En 1990, à Angoulême, il monte une exposition sur les univers créés avec Peters.
On ne dort plus parce que ça fait un an et demi qu'on travaille à cette exposition. Il y a des voix, il y a des acteurs qui jouent. Et donc c'est une aventure dans tous les sens du terme.
Il collabore à la conception graphique de plusieurs films, dont Mr. Nobody de Jaco van der Mel, conçoit le pavillon des Utopies à l'Expo Universelle de Hanovre en 2000, dessine la station de métro Arts et Métiers à Paris ou encore scénographie le musée du train à Bruxelles.
J'essaie de créer une féerie autour du train, c'est-à-dire donner le sentiment que c'est un monde fantastique, un monde passionnant.
Depuis 2020, il fait partie de la Red Team. Dans cette équipe, constituée par le ministère des armées français, il imagine les formes que pourraient prendre les guerres du futur. En 2014, il déclarait « Toutes mes expériences gravitent autour du même thème. Quels sont les enjeux de l'imaginaire aujourd'hui? Que peuvent apporter les images d'un dessinateur à des projets du réel ?»
Alors ces guerres qui nous attendent, François Skuyten, c'est un ouvrage qui est en fait extrêmement documenté, c'est très précis. Ça veut dire que vous travaillez comment? Il y a un véritable travail d'enquête. Vous rencontrez des scientifiques, des militaires, des spécialistes.
Alors on est bien entouré. C'est essentiel. Donc il y a deux auteurs, deux autrices, un dessinateur et puis une designeuse. Et en fait, c'est vraiment dans... Ça, c'est le cœur. Autour de ça, il va y avoir des experts de l'armée et des experts scientifiques qu'on va aller chercher dans tous les domaines. Et très vite, il va falloir que nos scénarios, enfin que les scénarios élaborés, ben, résistent à l'analyse et puis soient surtout ben, upgradés par ces regards.
Et vous travaillez ensemble comme un collectif, comme une sorte d'atelier d'écriture, où vous mélangez vos expériences, c'est ça. Vos dessins d'ailleurs contribuent, les dessins que vous faites, à relancer la réflexion des scénaristes aussi.
Dans le meilleur des cas. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que j'essaye de dessiner en même temps que les idées fusent. Mmh. J'adore être au cœur comme ça de leurs débats, de leurs joutes, de leurs aventures, parce qu'il y a des tas de pistes qui ne sont pas crédibles. Et puis moi, j'essaye un petit peu de capter tout ça, puis je leur montre. Mmh. C'est projeté. Et puis on dialogue, puis je reprends. Parfois, je change.
Et alors, pour un créateur, est-ce que ça ne vous a pas posé une question morale, un problème moral ou idéologique de signer comme ça un contrat avec le ministère des Armées?
Oui.
Oui. Expliquez-nous.
J'étais plutôt antimilitariste quand j'étais jeune.
Ah, bah alors.
Et quand j'ai eu cette proposition, j'étais un peu déstabilisé. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est pourquoi. Pourquoi un organe comme les armées peuvent avoir envie de s'intéresser aux imaginaires. Qu'apporte l'imaginaire aujourd'hui? Et alors là, c'était vraiment intéressant. Ils avaient envie d'être bousculés. Et je trouve ça formidable. On ne peut pas résister à ça. Quelqu'un qui vous dit, bousculez-nous, essayez qu'on change, qu'on casse un certain nombre de nos réflexes.
Ça veut dire que c'est une commande de l'armée, mais vous n'avez pas de consignes précises. Votre imaginaire est totalement libre, justement, d'accoucher de scénarios qui vont déstabiliser le militaire.
Oui et non. Il est certain qu'au départ, il y a des propositions qui sont faites.
Des briefs? On vous donne des briefs?
Non. Il faut d'abord arriver à trouver un sujet qui soit pertinent, qui soit audacieux. On est quand même en 2040, 2050.
Mais qui le trouve, ce sujet? L'armée ou vous?
Non, c'est nous. Non, c'est nous. Alors évidemment, il y a des sujets où on voit bien que ça marche et d'autres qui font
Précisément, dans cet ouvrage, il y a deux scénarios. Oui. Le premier d'entre eux, la première de ces deux nouvelles, qui s'intitule « Face à l'hydre », eh bien, elle imagine un homme augmenté, un homme qui a une fiche implantée dans son circuit neuronal. Et grâce à cette fiche, d'un seul coup, de façon quasi spontanée, il peut acquérir toutes les connaissances, tous les savoirs. C'est crédible, ça, si demain, en 2040, donc, vous m'implantez une fiche et je pourrais parler toutes les langues du monde?
Alors, moi, parfois, j'en rêve parce que j'ai quand même des grosses failles. Oui, c'est en tout cas une piste très sérieusement élaborée. C'est des sujets qui sont assez secrets. Les Chinois travaillent dessus sans beaucoup d'éthique, je crois. Et ils vont déjà très vite. On sait que Elon Musk a une véritable fascination sur le sujet. On a vu des experts qui nous ont déjà dit ce qui était possible, en tout cas ce qui était en train de se faire. Mais maintenant, voilà, c'est un scénario du futur.
Comme vous, du futur, certes, mais en même temps, vous avez cité d'ailleurs notamment Elon Musk, comme vous le disiez à l'instant, Françoise Keuten, Anna Ndiaye, n'est-ce pas, les implants cérébraux, c'est pas seulement un scénario du futur, c'est déjà aujourd'hui.
Ben oui, parce que fin janvier, la start-up d'Elon Musk qui s'appelle Neuralink, elle a posé son premier implant cérébral, c'est à peu près la taille d'une pièce de monnaie, dans le cerveau de Noland Harbo, un patient paralysé, et cela pour lui permettre de contrôler un ordinateur grâce à ses neurones. Alors ce n'est pas une première de poser des implants dans le cerveau, d'autres sociétés l'ont déjà fait par le passé, mais cette fois-ci, l'objectif d'Elon Musk à terme, c'est de nous permettre à nous tous ici présents de pouvoir contrôler nos téléphones ou nos ordinateurs uniquement par la pensée. Alors pour Noland, en tout cas, le pari semble réussi si l'on en croit le milliardaire. Le 19 février, il donnait des nouvelles du patient. Les progrès sont bons, il semble s'être complètement rétabli, sans effet secondaire. Il ajoute qu'il est capable de contrôler la souris d'un ordinateur et de le déplacer sur l'écran juste par la pensée. Et cerise sur le gâteau, il a même réussi à jouer à une partie d'échecs en ligne. Alors la suite pour Neuralink, l'entreprise dans un futur proche, c'est de pouvoir, grâce à ses implants, guérir la dépression, rendre la vue aux aveugles et pourquoi pas faire remarcher les personnes paralysées. Françoise Keuten, est-ce que finalement on n'est pas si loin de se faire engrammer, comme c'est écrit dans le livre, des informations dans le cerveau? On va donc pouvoir parler, comme le disait Renaud, une langue instantanément dans un futur proche?
Oui, alors en tout cas c'est ce qu'on a l'air qu'on peut imaginer. Attendez-nous bien, ce n'est pas ce dont je rêve personnellement. Ce qui est important, c'est d'arriver à voir ce qui est crédible aujourd'hui et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et de les rendre visibles, de voir des scénarios, quelles seraient les conséquences négatives.
Dans une guerre, c'est quoi justement les conséquences de ces implants cérébraux? Ça change quoi? Ça change tout?
Ça change tout parce que brusquement, une population qui n'a l'air de rien peut se transformer en soldat extraordinairement expérimenté.
Et sans les reconnaître, du coup.
Et sans les distinguer.
Il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas pour reconnaître l'ennemi. L'ennemi peut être partout, potentiellement. C'est ce qu'on va raconter.
Et c'est ça ce qui était vraiment intéressant comme scénario, c'est de voir avec quelle la difficulté qu'aurait une armée comme la vôtre.
Parler de l'armée française, pas de la mienne. Moi, j'en ai pas.
C'est pas celle de Renaud Dénis.
Mais c'est pas l'armée belge. face à une population comme celle-là, de voir que fait-on? Et qui sont véritablement les personnes qui peuvent les mettre en difficulté?
Et quand on lit justement ces deux nouvelles, on voit qu'elles anticipent une accélération des progrès scientifiques et technologiques, comme on vient d'en parler. Est-ce qu'on peut dire que toute innovation est forcément à destination à but guerrier?
Non, mais il peut être utilisé à but guerrier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment une hypothèse peut brusquement être détournée, scientifique, peut brusquement... On a fait un scénario qui est très intéressant sur détourner le vivant. Comment on peut bricoler de l'ADN, des choses comme ça. J'aimais beaucoup, beaucoup ce scénario, et de voir toutes les conséquences. Et là, j'ai senti quand même chez les militaires un petite inquiétude.
Et l'autre scénario aussi qui est dans cet ouvrage, c'est celui d'une guerre spatiale de haute intensité, donc une guerre qui évidemment se déplace. Ça, c'est un scénario crédible aussi et qui est envisagé par les militaires?
Alors, c'est sans doute le scénario le plus difficile, le spatial, parce que, il est fait de stéréotypes, de clichés. On est envahi d'images, comme ça, un petit peu. Et pour moi, dessinateur, c'était très, très difficile. Alors, oui, on s'est entouré des meilleurs experts. Oui, il y a des tas de choses qui peuvent se passer et qu'on voit déjà. On voit la façon dont les enjeux sur la Lune, c'était extraordinaire de voir comment on reporte un certain nombre de problèmes terriens sur la Lune.
Et alors ça, ce sont les scénarios que vous avez publiés, mais vous en avez écrit d'autres. Vous avez participé à l'écriture d'autres scénarios qui n'ont pas été publiés. Pourquoi? À cause de la censure, c'est l'armée a refuse de rendre public un certain nombre de scénarios?
Oui.
Qui relèvent du secret défense?
Oui, oui, il y a une équipe qui travaille sur des choses sur lesquelles il était préférable de ne pas en parler.
Pourquoi ?
Parce que je pense que c'est des sujets compliqués, des sujets très, très, comment dire, d'actualité,
qui pourraient donner des idées à l'ennemi, c'est ça ?
Par exemple. Par exemple, évidemment. Mais bon,
vous avez un exemple à nous donner ?
Non, entre nous. Bon. Non, j'ai toujours un petit peu inquiet parce que normalement, je dois être d'une discrétion remarquable.
Eh bien, ça va, vous avez respecté la consigne. Bravo, rompez. Merci. Merci Françoise Kaiten d'être venue partager avec nous ces scénarios donc, de ces guerres qui nous attendent, la Red Team, cet ouvrage collectif qui paraît aux éditions des Équateurs. Et puis, je signale aussi l'apparition de votre... le dernier volume des Cités Obscures, le retour du capitaine Nemo, avec votre compère Benoît Peters. C'est sur les traces de Jules Verne, évidemment.
Absolument. On n'est pas si loin.
On n'est pas si loin non plus, d'ailleurs, de Jules Verne aux guerres qui nous attendent. Tout se tient. Merci, Françoise.